Directeur Jules Radio Insolite sur le Salon international du tourisme et du voyage à Colmar. Je suis devant un globe terrestre et devant un extraterrestre. Bonjour l'extraterrestre, qui es-tu ?
Bonjour, je suis Eric Lobo. J'ai à mon actif sur ces 12 dernières années 3 tours du monde en Harley-Davidson avec des destinations assez inhabituelles pour ce genre de moto. Il y a 6 ans, j'ai dû rouler sur l'océan Arctique pendant quelques mois.
L'océan, c'est l'eau, logiquement. Comment tu as fait pour rouler ?
C'est comme Dieu, il marche sur l'eau et pourtant on lui a pas fait de procès. J'attends qu'elle gèle et quand elle gèle, ça devient possible. Donc j'ai roulé sur la mer polaire près de Tuktoyaktuk. À peu près 200 km, c'est les Northwest Territory du Canada. 200 km de glace, c'est des routes qui sont assez étonnantes. Et pour y arriver, il faut passer toujours en hiver par la Dempster Highway, qui fait à peu près un petit millier de kilomètres, peut-être un petit peu moins, qui sont des routes de gravels gratté et un peu travaillé, mais sur lesquels il passe, à part les convois de l'extrême, il passe personne, et encore moins des motards par moins 35, moins 40, moins 50. Ça, c'est une des particularités de mon profil. Après, j'ai fait des choses moins spectaculaires. Il y a une douzaine d'années, je traversais la Sibérie, toujours en Harley. Et là, on vient de faire là, je dis on, parce qu'habituellement, je pars tout seul, sans carte, sans GPS. Là, on vient de faire à peu près 65 000 km avec ma compagne, de motos, de Harley, spécialement conçues pour le voyage, des motos de 450 kg à peu près. Et on a traversé tout le vieux monde depuis l'Europe via l'Asie centrale, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, etc., jusqu'à revenir un peu en arrière, jusqu'à repiquer depuis Samara en Russie. Donc tout ça pendant la pandémie. Donc c'est ça aussi l'originalité de ce voyage, c'est d'avoir avoir pu crocheter 28 serrures pour rentrer dans des pays clos. Une fois être passé de l'autre côté du mur, constater ce qui s'y passait exactement. Généralement, quand on monte des murs, c'est pour pas franchement montrer ce qui se passe de l'autre côté. Mais là, c'était très intéressant. On a rencontré des populations qui n'étaient plus en contact avec le tourisme depuis des mois. Et quand je dis des mois, c'est souvent 2 saisons. Donc on a fait ce voyage, on est parti juste après le premier confinement. On s'est dit que ça allait chauffer et qu'en France on allait avoir un deuxième. Le premier était déjà assez insupportable, donc on s'est échappé en imaginant qu'il y aurait un deuxième. Et effectivement, ça s'est confirmé, les portes se sont refermées derrière nous. Et on est passé de pays en pays, la plupart du temps orange ou rouge sur les cartes du Quai d'Orsay. Et puis on est allé jusqu'au bout, jusqu'à Vladivostok. Vladivostok, il n'y avait plus de sortie puisque le pays était fermé en confinement. Donc on ne pouvait plus s'échapper ni sur la Corée, ni sur le Japon, tout simplement pour des problèmes de compatibilité de vaccins. Quand on est parti, il n'en existait pas, donc on n'était pas vacciné. Donc après 13 mois de voyage, je sais qu'en France, ils ont commencé à vous vacciner à tour de bras. Nous, on était un peu à l'abri de ça. Pas contre, mais dans l'impossibilité de se vacciner. Et donc, on s'est retrouvés à devoir, si on voulait être vraiment vacciné, il nous restait que le Sputnik Light, qui se fait en une seule injection. Qui peut coller éventuellement de la fièvre pendant 24 heures, on tremble un peu, et après, et même celui-là, ça ne servait à rien de s'infliger ce malheur-là, puisque de toute manière, il n'était pas compatible avec les pays autour. Donc on a décidé de faire l'impasse pour se jeter dans une région qui, pour de la part du Quai d'Orsay, c'est une belle originalité. On est passé de zone rouge à zone rouge écarlate en raison de l'apparition de l'Omicron. Qui est un peu une sorte d'injustice, puisque bon, c'était vraiment pas un coronavirus très, très virulent, mais en tout cas. Et on a subi les problématiques des confinements, du Covid, des load shedding, là, des pannes d'électricité, des fêtes de Noël. Avec nos motos qui ont traversé par bateau sans rester bloquées en face de Robben Island où était emprisonné Mandela. On a attendu, la moto était là pendant un mois, on l'a regardée sur le bateau, on ne pouvait pas la récupérer. Et ensuite, après avoir fait à peu près 12-13 000 km en Afrique du Sud, dès qu'on a récupéré les motos, on est remonté par la Namibie, la Caprivie, le corridor de la Caprivie pour aller jusqu'au Botswana, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie, jusqu'au Kilimandjaro, Rwanda, qui commémorait le génocide rwandais, l'Ouganda pour aller voir les gorilles, le Kenya pour aller chez les Maasai, la remontée sur près des bergers, de la frontalier de l'Éthiopie du Kenya avec l'Éthiopie, et ensuite on est remonté en Éthiopie, on s'est retrouvé bloqué pour des problématiques de carburant, plus de carburant du tout en Éthiopie, et en plus si t'es blanc c'est encore plus compliqué. Et puis on a fait une négociation qui a pris 3 jours pour pouvoir quitter l'Éthiopie pour arriver jusqu'à Dakar, et après on est remonté Mauritanie, Sahara occidental, Maroc, et puis on est rentré après 65 000 km et 650 jours sur la route.
Qu'est-ce qui te motive tous les matins ?
Là en ce moment, ma motivation, elle est différente des jours précédents. Non, aujourd'hui, ma motivation, c'est de partager toutes les expériences que l'on a eues. Donc là aujourd'hui, il y a un énorme travail de production. On a filmé et photographié pendant 21 mois. On a enregistré à peu près 21 téra d'informations. Donc là, il y a des bouquins en préparation. Il y a un bouquin de photos en préparation pour, Noël, ou si on n'y arrive pas, pour le mois ou les 2 mois qui suivent. Après, il y a un récit qui est en cours et un film. Donc ce qui nous motive, c'est, moi en tout cas, ce qui me motive, c'est de pouvoir partager cet émerveillement qui est de plus en plus difficile à mon niveau, à partir du moment où ça fait maintenant 170 pays que je traverse. Donc on pense être blasé, on est toujours émerveillé, mais je pense que si on choisit, c'est plus les paysages qui font la différence, puisque je crois que j'ai vu les plus belles choses de la planète. Je crois que maintenant c'est l'homme qui m'épate de plus en plus, et l'homme évolue beaucoup, et ce que je disais hier sur une interview, c'est que je suis parti après le premier confinement, on a décidé de partir voir un ailleurs, et quand on est revenu en France, on est arrivé ailleurs puisque la France a beaucoup évolué en 2 ans, les comportements ont changé, le français a changé, et j'ai pas de jugement là-dessus, mais son comportement a été modifié par les événements qu'il a subis pendant les quelques mois de confinement et de restrictions, et ce qui me faisait sourire récemment avec les problèmes pétroliers, les problèmes d'essence en France, je me suis dit, la France, c'est un peu comme l'Afrique en Éthiopie. On n'a plus d'huile, on n'a plus de moutarde, ça on s'en fout. On n'a plus d'essence, on s'en fout. On a un gamin qui n'est pas allé à l'école parce qu'il n'y avait pas d'électricité au lycée. Je me suis dit, c'est comme l'Afrique du Sud. Finalement, on n'est pas si loin des pays d'Afrique, même si on croit qu'on est pays très, très évolué.
Je te répondrai, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées chez nous. C'est ça qui est bien. À l'origine, c'est quoi? Alors, on a tous rêvé avec le Dakar à l'époque de Thierry Sabine, mais c'était quoi à l'origine? Qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça? La moto, et puis la moto, c'est pas vraiment un véhicule de tous les jours, quoi. Enfin, si, ça peut être un véhicule tous les jours, mais quand même. Mais, 65 000 km en moto, ouais. Ça, voilà.
Alors, l'histoire commence comment? Elle commence en 2010. Avec la crise des subprimes, c'est un changement de vie en fait. Hein. Avec la crise des subprimes, je passe d'une vie d'homme d'affaires. Alors j'ai une vie duale pendant 25 ans, j'ai une vie d'homme d'affaires. Et en passion, comme moi j'aime bien cette vie des affaires qui est assez excitante, j'avais décidé de faire en même temps de la photographie, puisque je suis photographe depuis extrêmement longtemps maintenant, et j'ai essayé de gérer la passion de la photographie. Et la passion de la photographie, je ne voulais pas la faire comme un amusement, mais comme je voulais me frotter au meilleur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'aller dans des destinations pour me frotter au meilleur, de la catégorie ethnophotographie. Au début, c'était l'Himalaya, c'était le Tibet. J'ai commencé à faire du reportage pour Géo, pour National Geographic. J'ai commencé à faire, donc c'était quand même relativement sérieux. J'ai fait une quinzaine de bouquins d'ethnophotographie. Et donc, ça a commencé comme ça. Et avec la crise des subprimes, quand je me suis retrouvé à terre, un genou à terre, j'ai tout perdu. Ma mère est décédée, mon père a eu un infarctus, ma femme est repartie aux États-Unis. Je me suis retrouvé ruiné, plus en rond, plus rien. Et donc, j'ai bidouillé, j'ai acheté une moto à crédit, une Harley Davidson, alors que j'ai plus droit à rien. Mais bon, je me suis débrouillé pour l'avoir. Et puis, j'ai payé mes trois échéances et je suis parti sur la route pour c'était ça, c'était soit ça, soit sauter du cinquième. Donc, j'ai choisi quelque chose de plus honorable comme fin. Et j'ai décidé de partir. Et puis, la route, j'ai trouvé le chemin de ma résilience, je me suis reconstitué, une renaissance complète sur la route grâce aux bikers russes qui étaient très vivants, très humains, et très sauvages en même temps. Et j'ai trouvé ça terriblement humain. J'en ai fait un bouquin qui a été une réussite. Et puis j'ai écrit un bouquin, mon premier récit, qui a gagné le prix, qui était lauréat du festival des Angles, du festival d'aventure des Angles. J'ai fait un film qui a été présenté au même festival. Alors là, j'ai fait un coup double sur ce coup-là. Et puis ensuite, en 2014, j'ai décidé j'ai fait une promesse à mon père qui devait se faire opérer du cœur, que si se passait quelque chose, si ça finissait pas forcément bien, j'irais pour lui rouler sur l'Arctique. Et donc mon père s'est fait opérer. Quelques jours plus tard, il décédait. J'ai descendu la grille et je suis parti je suis parti de la maison pour aller vers un endroit où je pourrais rouler sur la mer polaire. Et je pensais remonter la Colima en Sibérie, puisque je connais bien la Sibérie. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait là, ça s'est fait du côté de l'Alaska et des territoires du Nord-Ouest canadien. Et puis voilà, c'est le dernier tour du monde.
Bon, la question est difficile maintenant, t'es prêt?
Ah oui.
Pourquoi une Harley?
Alors c'est la question la plus facile, c'est la réponse la plus facile que je peux faire. Pour les croyants, je répondrai, c'est un peu comme la croix du Christ. Hein, quand tu arrives sur le haut de la colline, après avoir porté une machine de 450 kilos, tu arrives en haut changé. Et je crois que dans le voyage, c'est ça qui est important. C'est l'impact du voyage et la destination. Qui est extrêmement lourde, indestructible, voire indestructible, qu'on peut réparer n'importe où, qu'on soit au fond de la Sibérie ou de l'Afrique. On a toujours un gars qui sait souder, remonter. En termes mécaniques, il n'y a aucun problème de moins 74 degrés à plus 56. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, voilà, à partir de là, Je ne peux pas dire que j'ai fait un mauvais choix. Et il y a un deuxième effet, c'est que le fait qu'elle soit très lourde, on évite de trop déconner et d'aller trop dans des endroits. Mais il n'empêche qu'on arrive à aller... Là, on a parcouru, par exemple, toute la Namibie. On a croisé des Namibiens qui ont l'habitude de barouder là-bas, qui n'avaient jamais vu de biker et encore moins Harley Davidson sur ces pistes défoncées de Namibie. Donc ça passe. Donc si ça passe, s'il faut faire des efforts, et il faut penser aussi à que c'est pas la moto qui permet de franchir les montagnes, hein, c'est les hommes. Donc souvent, nous, on a la chance de bénéficier d'une vraie communauté. Et puis, le rapport à l'autre avec cette machine qui est improbable nous permet d'aller un peu d'aller au bout de nos rêves, quoi.
Comment on fait pour te retrouver ?
Pour me retrouver, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller sur Google, faire Eric Lobo, L-O-B-O. Et puis vous allez avoir plein de connexions. Sinon, sur Facebook, c'est Eric Lobo 75. Sinon, c'est Eric Lobo, c'est facile à trouver. Et puis sur Instagram aussi, Eric Lobo 75. Et sinon, on a un site qui est Eric Lobo et Miss M Adventure. Là, vous trouvez toute notre dernière histoire sur la route, notre dernier épisode. Voilà, les livres vont arriver, le film va arriver, le teaser va être prêt pour Noël, je pense. Non, on va faire quelque chose de bien parce qu'on a vraiment, on a vraiment souffert sur la route et pris beaucoup de plaisir en même temps. C'est aussi, c'est les effets du voyage. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas les destinations, c'est pas tant les destinations, bien sûr, il y a des choses à voir, mais c'est surtout ce qu'on en fait et comment on en revient. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on réalise qu'on se retrouve changé à un point d'être mieux préparé à attaquer notre vie future en France.
Oui, donc ça veut dire que le prochain 2023, le projet, c'est la France.
J'en sais rien. Non, c'est trop. Je suis pas encore assez vieux. Quand je serai vieux, je ferai le tour de la France. Mais pour l'instant, j'ai encore la force pour aller me bagarrer dans des endroits impossibles, bien que. Si on veut en France, pays magnifique, donc on peut trouver de très belles choses. Mais donc pour l'instant, ça fait longtemps que je baroude partout et en France également. Pour l'instant, je n'ai pas de plan encore. Là, il me manque pas mal de pays sur l'Afrique que je n'ai pas fait. Il y en a, je crois, 54. J'ai dû en faire peut-être une quinzaine. Donc, il m'en manque encore une bonne trentaine. Après, une fois que j'aurai bouclé ces 30, je pense que j'aurai coché tous les pays de la planète. J'ai encore le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les pays que j'ai fait avant ont changé, soit changé de nom, soit changé d'allure. Donc, le Vietnam, il y a 30 ans, c'est pas le même que le Vietnam d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est que le monde est en constante évolution. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut boucler la planète, on peut avoir mis les pieds partout, mais la planète est assez étonnante. Et ce qui est le plus étonnant sont les gens et leur évolution, donc qui sont intéressants et dont les expériences sont importantes à partager.
Merci Eric.
Avec plaisir.